Alors, merci à tous d'être venus pour cette troisième séance du séminaire Aliénation-Émancipation. Je vais faire une petite présentation un petit peu plus longue, mais vous comprendrez aisément pourquoi. Donc peut-être je voudrais commencer sur un petit peu la genèse de notre travail. Lorsque nous avons commencé à réfléchir à des intervenants pour mettre en place notre programme, la présence de Jean-Jacques Lecercq s'est imposée comme une évidence, notamment parce que, et pour une raison essentielle selon moi, tout au long de sa carrière, il a plaidé pour la reconnaissance de l'anglistique comme une compétence distincte, comme champ de travail, comme champ de réflexion, ce qui constitue pour moi un véritable antidote à une représentation de l'anglais actuelle qui progresse malheureusement de nos jours, qui voudrait faire de la langue anglaise un simple vecteur de communication. Cet aspect-là est au cœur de la démarche que nous souhaitons mettre en place avec ce séminaire. Donc, pour la plupart d'entre vous, Jean-Jacques Lecercq est avant tout un collègue, un ami, et pour moi, ce fut d'abord un professeur. J'ai suivi son cours de traduction en DEA, donc il y a quelques années, et je n'oublierai jamais l'une des phrases sur laquelle il nous a fait travailler un soir d'hiver. Il faisait déjà nuit dans la salle de cours. Donc je ne peux pas résister à vous raconter, à vous donner cette phrase. Il s'agissait d'une dame et d'un petit chien qui agaçait beaucoup un monsieur. Alors que la dame menaçait le chien de représailles, le monsieur déclarait, je cite, « Madame, moi, ce n'est pas dans le sien de cul que je vais mettre le mien de pied. » Je vous laisse imaginer nos mines ahuries, puisqu'il fallait traduire ce passage. Monsieur Lecercq était ravi. Je pense qu'il s'est beaucoup amusé. Et l'histoire ne retient pas nos traductions, hein, qui furent de qualités très diverses. Mais cette anecdote, je voulais la raconter parce qu'elle évoque assez bien le rapport que Jean-Jacques Lecercq entretient avec le savoir, avec la langue. C'est une science gaie, une science généreuse qui a l'humilité de se prendre pour une blague. Alors, son CV n'a rien d'une blague. Hein. Pourtant, vous le savez tous, il a fait toute sa carrière à Nanterre de 1970 à 2007, à part une interruption de 3 ans où il a occupé une chaire de recherche à l'université de Cardiff. Il a enseigné la linguistique anglaise et la littérature de 1800 à nos jours, et il s'est particulièrement intéressé à la littérature victorienne d'une part et à la philosophie du langage d'autre part. Même si ces deux branches de son travail se sont toujours alimentées l'une et l'autre. Parmi les ouvrages qu'il a publiés, on peut citer Frankenstein, Mythe et philosophie, 1988, The Violence of Language, 91, mais réédité en 2017, et Une philosophie marxiste du langage, parmi d'autres. Son dernier ouvrage, L'Interpellation, sort ces jours-ci. Je vais vous le faire circuler. Donc je conclue cette présentation un tout petit peu longue, pardonnez-moi, en remerciant chaleureusement Jean-Jacques Lecercq, car lorsque je l'ai contacté, je me suis dit qu'il faudrait peut-être le convaincre, mais ce fut tout à fait inutile. Il a immédiatement répondu à ma sollicitation avec beaucoup d'enthousiasme. Je lui suis particulièrement reconnaissante de s'être emparée très spontanément des termes mêmes de notre séminaire pour les faire dialoguer et pour les emmener, je l'espère, dans des directions nouvelles et insoupçonnées. Alors merci encore.
Merci pour ces bonnes paroles. Mon titre, c'est l'aliénation et l'émancipation prise par le langage. Et le premier point dit pourquoi je suis ici. Il y a 2 raisons pour lesquelles, quittant ma paisible retraite, j'ai accepté de participer à ce séminaire. La première est que lorsqu'Alice, qui bien entendu savait ce qu'elle faisait, m'a présenté le séminaire, elle a mis en avant les 3 termes qui, pour le vieux marxiste non reconstruit que je suis, étaient autant de chiffons d'un rouge éclatant, qui ne pouvait que m'attirer, ou plutôt la nécessité de ce terme apparaîtra bientôt, m'interpeller. Je ne vous apprends pas que la tradition marxiste est un des lieux où l'on a cherché à penser l'aliénation et l'émancipation, surtout si on pense le rapport en termes de dialectique. Mais il y a une seconde raison, car Alice a agité un autre chiffon, de couleur moins soutenue, en évoquant l'anglistique. Cela fait des années, comme elle vous l'a rappelé, que je soutiens que notre discipline laboure un champ spécifique du savoir, ce qui veut dire que nous ne sommes pas des historiens ratés, de faux linguistes et des littéraires bornés, mais de véritables spécialistes d'une discipline que j'ai proposée, à l'imitation de nos collègues allemands et italiens, d'appeler linguistique. Il m'arrive aujourd'hui parfois d'entendre ce mot, doux à mes oreilles, repris par des collègues, et je ne peux qu'approuver l'orientation d'un séminaire qui se dit séminaire de civilisation, littérature et linguistique, c'est-à-dire trois des composantes principales de cette discipline unitaire qu'est linguistique. Cela étant, comme il vaut mieux que je parle de ce que je sais, je vais vous entretenir de langage et je vais procéder à une traduction culturelle, c'est-à-dire à une transposition des termes marxiens en termes de philosophie du langage, au prix, bien entendu, de quelques déplacements. Le terme de traduction culturelle est une allusion au concept de traducibilità que l'on trouve dans les cahiers de prison de Gramsci. Gramsci, qui, avant d'être secrétaire général du Parti communiste italien, avait été étudiant en philologie, soutenait que même dans les cas les plus apparemment simples, la traduction d'une langue nationale à une autre, par exemple le passage de Rosa en latin à Rosa en italien, ne pouvait être le fait d'une équivalence quasi mathématique, car la place des deux termes dans leur culture respective, les connotations qu'ils portent, ne sont pas identiques. Ce qui veut dire que toute traduction linguistique est en même temps une traduction culturelle. Et il étendait cette traductibilité de la langue nationale à la culture qu'elle exprime et inscrit. Ce qui suppose, car c'est à dessein qu'il parle de langue nationale plutôt que de langue naturelle, une conception de la langue non comme système de règles grammaticales, mais comme ensemble de pratiques au sein d'une culture, comme langue-culture. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Voici donc ma feuille de route. Je vais me demander en quel sens on peut parler d'aliénation, puis d'émancipation en matière de langage, et en quoi leur relation peut être qualifiée de dialectique. Et j'en tirerai les conséquences quant à une définition de linguistique. Deuxième point, aliénation. Le lieu est presque le bon, le temps aussi. J'aurais dû prononcer ce discours dans le bâtiment E il y a 6 mois. Un des héritages culturels les plus marquants des événements de mai 68 est sans doute la multiplication des affiches, graffitis et autres d'Azibao qui fleurirent sur les murs des universités et des rues et qui furent pieusement recueillis et publiés. Voici donc une inscription qu'on pouvait lire sur le mur du département d'anglais de notre université. Vous la trouvez sur le handout, c'est le point numéro 1. Le langage étant le mode de relation sociale des individus qui s'est formé sous la contrainte, premièrement, de l'aliénation naturelle, deuxièmement, de l'aliénation proprement sociale, il n'est aucune raison de ne pas le faire péter au niveau de la répression grammaticale. Depuis que Dada a dicté son foin, la littérature n'a fait que le récupérer. Ce texte a une caractéristique frappante, ce que les rhétoriciens anglais appellent « bathos », une chute brutale de registre, de l'écrit à l'oral, du noble au populaire ou au vulgaire. La première partie est écrite dans la langue de l'université, lexique conventionnel, syntaxe correcte, ponctuation exacte et numérotation des points abordés. Mais la seconde bouleverse cette belle ordonnance en introduisant une expression vulgaire, même si la métaphore corporelle de péter, à force d'être morte, a perdu de sa force, et en produisant de la confusion sémantique, car on ne peut pas dire que le sens de dicter son foin soit immédiatement clair. On prendra donc le texte comme un superbe exemple de cette prise de parole qui, pour Michel de Certeau, dans une interprétation célèbre, caractérisait ce qu'il appelait la révolution symbolique de mai 68. Il entend cette expression non dans son sens courant d'intervention du locuteur lorsque vient son tour de prendre part à la conversation, mais comme une prise de Bastille langagière, une prise d'assaut de la parole qui inverse les hiérarchies de pouvoir, patron contre ouvrier, administration et enseignant contre étudiant, etc. D'autorité, la parole autorisée des dominants contre la parole soumise des subalternes, ou de représentation, parole interminable et bavarde des représentants, qui condamne au silence les représentés, cette majorité silencieuse, qui n'ont plus droit à la parole, une fois qu'ils ont mis à intervalles réguliers un bulletin dans une urne. Comme cette prise de parole subversive était pour De Certeau une façon de, je cite, « prendre le langage au sérieux », je me propose de prendre ce texte au sérieux en en proposant une analyse dont les points seront dûment numérotés par autopastiche du caractère universitaire de mon propre discours. Premier point, le bathos du texte vise l'enflure du discours universitaire qui se prend au sérieux. Autrement dit, ce texte pratique ce qu'il prêche, il fait péter le sérieux du discours universitaire par lequel il débute et par là refuse violemment sa répression grammaticale, c'est-à-dire le style collectif qu'il caractérise. Le Bessos est une chute de registre parce qu'il est une saute de style. Deuxièmement, ce texte a donc, entre guillemets, du style, car la saute de style nous fait passer du style collectif au style individuel, d'une forme d'aliénation dans et par le langage, ici nommée répression grammaticale, à son contraire, une forme de contre-aliénation que l'on pourra nommer émancipation langagière par le biais de la littérature d'avant-garde. Cela se marque par l'agilité rhétorique de la seconde moitié du texte, qui contient une métaphore vive, dictée sans foin. Le texte prend d'assaut le discours universitaire, là est sa prise de parole, par un coup de force poétique qui lui fait dire ce qu'il ne peut pas ou n'ose pas dire, et qui mélange non seulement les registres, mais aussi les genres de discours, en l'occurrence le poétique et le scientifique, ou ce qu'il cherche à passer comme tel. Troisième point. Jusqu'ici, j'ai considéré l'aspect critique du texte, sa parodie du langage universitaire. Mais si nous décidons de prendre le texte au sérieux, si nous décidons que ce texte, comme le dit De Certeau, prend le langage au sérieux dans sa prise de parole, nous devons aussi décider qu'il y a du sérieux dans cette inversion parodique. Cela apparaît avec les mots « aliénation » et « répression » qui font partie du langage philosophique et politique de mai 68 et qui sont bien sûr la raison pour laquelle j'ai choisi ce texte. On se souviendra de l'importance du concept d'aliénation dans la philosophie d'Henri Lefebvre, qui à l'époque enseignait la sociologie à Nanterre et inspirait les situationnistes. Et on se souviendra également que Dada fut une source d'inspiration pour le mouvement du 22 mars né à Nanterre. Quatrième point. Une fois pris au sérieux, le texte apparaît comme inscrivant le choc de deux intertextes. La première partie parle le langage de la science sociale, une forme de science ou de philosophie du langage. La seconde, le langage d'une avant-garde littéraire. Et ce second langage a pour fonction de subvertir le premier, d'en esquisser une critique qui va bien au-delà de la parodie. Cinquième point. Mais il n'y a pas qu'un choc de discours dans notre texte, le littéraire contre le scientifique. Au sein même du littéraire, il y a une opposition virtuelle entre l'avant-garde et le canon. Le choix de Dada comme représentant de la subversion littéraire n'est pas innocent. Nous sommes dans le département d'anglais. L'essentiel de l'enseignement donné à l'époque concernait le canon de la grande littérature, et Dada est en quelque sorte l'anti-Shakespeare, c'est-à-dire un texte littéraire qui n'est pas encore objet de savoir universitaire, même dans un canon charitable et indéfiniment élargi, et qui donc conserve son pouvoir de subversion. Sixième point. Je reviens à la première partie du texte pour la prendre au sérieux, elle aussi, au-delà du pastiche. En effet, elle semble bien nous proposer l'esquisse d'une philosophie du langage autour d'un certain nombre de thèses, même si celles-ci restent largement implicites à cause de la brièveté du texte. Le texte suggère que, petit a, le langage d'une pratique sociale, non un instrument de communication, mais un mode de relation sociale. Petit b, le langage est matériellement contraint, l'allusion à l'aliénation naturelle engage une théorie de l'origine du langage, comme rapport entre l'homme et la nature, peut-être la conception d'Engels sur la co-originarité du langage et du travail. Petit c, en conséquence, le langage, pratique sociale, ne peut être compris comme compétence individuelle, et notre texte réfute implicitement les conceptions dominantes du langage, par exemple celles de Chomsky, qui sont fondées sur l'individualisme méthodologique. C'est ici qu'intervient le mot essentiel, celui d'aliénation, qui engage une quatrième thèse implicite, petit d, le langage est une forme d'aliénation, ce qui veut dire que les contraintes du système grammatical empêchent, le texte dit réprime, la libre expression du locuteur individuel, laquelle n'est rédimée que par la subversion de l'avant-garde. Pour le dire autrement, les contraintes du système de la langue sont une imposition aliénante. On aura remarqué que le texte parle bien de contraintes, mais pas dans le sens linguistique du terme, que le texte pourtant appelle. Il utilise le terme dans son sens politique, action sous la contrainte d'un pouvoir ou d'une autorité, adoptant par là le langage de l'oppression et du combat nécessaire contre elle, une lutte violente qui doit faire péter les contraintes sociales autant que langagières, lesquelles, loin d'être capacitantes, c'est-à-dire libératrices, imposent une domination et confortent des hiérarchies. Septième point. Nous pouvons donc comprendre l'articulation entre les deux parties du texte, entre sa pars construens et sa pars destruens. Le texte passe de l'aliénation, par quoi il faut comprendre la soumission au savoir et au langage établi, à une forme d'émancipation, la subversion de la répression grammaticale, d'où l'opposition entre avant-garde et canon, entre style et système grammatical. Huitième point, ce que De Certeau appelle le déplacement crucial du langage établi dans la prise de parole de mai 68, est donc ici quadruple. Petit a, un déplacement de style et de registre contre la grammaire et les bienséances langagières, qui introduit des expressions vulgaires dans le langage noble de la science. Petit b, un déplacement par contre-aliénation du discours établi par le biais de la parodie ou du pastiche. Petit c, un déplacement par contre-aliénation de la structure de l'institution universitaire, l'avant-garde remplaçant le canon et faisant de la littérature un fétiche pour universitaires. Petit d, un déplacement théorique et scientifique qui esquisse une autre philosophie du langage, formulée en termes vaguement marxistes, que le consensus universitaire marginalise, mais que les événements de mai ont remis au centre de l'action culturelle et politique des révoltes ouvrières et étudiantes, autour du concept d'aliénation, qui implique une critique de l'individualisme méthodologique caractéristique de la conception dominante du langage. Ce quadruple déplacement est bien une prise de parole au sens fort, et l'inscrit dans la dialectique de l'aliénation et de la contre-aliénation ou émancipation langagière, ce qu'on peut appeler un style. On voit en quoi ce texte peut illustrer la dialectique de l'aliénation et de l'émancipation dans le langage. Les contraintes imposées par le système de la langue, ça se dit, ça ne se dit pas, sont une forme d'aliénation parallèle à l'aliénation générale. Les communautés humaines ont produit une entité, un système de règles, qui se séparent d'elles et les oppriment en imposant des limites à leur action, en l'occurrence des limites sur le disible. Et la littérature avant-gardiste, en transgressant ces limites, constitue une forme d'émancipation, c'est-à-dire de contre-aliénation. On se souviendra ici de la définition que Deleuze, dans Critique et Clinique, donne du concept de style autour de l'agrammaticalité et du passage à la limite vers l'image ou la musique. Ce n'est pas un hasard si son canon littéraire était résolument moderniste et s'il admire la tentative antigrammaticale contre Lewis Carroll d'Artaud, traduisant le poème Jabberwocky sans savoir l'anglais, mais était-ce bien nécessaire? Arrivé à ce point, je vous propose un exemple d'aliénation linguistique et un exemple d'émancipation poétique. Le premier est fourni par le programme de recherche d'Anna Wiertzwicka. Cette linguiste polonaise, émigrée depuis longtemps en Australie, a, au contact des langues aborigènes, élaboré un programme de sémantique inspiré de l'hypothèse de Worf Sapir, selon laquelle la langue contraint la pensée. Selon qu'on est indien Hopi ou Wasp, on ne pense pas les mêmes choses parce qu'on parle des langues de structures très différentes. Sous sa forme forte, l'hypothèse de Worf Sapir est difficilement tenable. La différence radicale entre les langues interdit la conscience même d'une différence radicale. Mais Wiertzwicka en soutient une version faible. D'un côté, la langue contraint la pensée en lui imposant ses mots, ce qui donne des titres de ses ouvrages comme « Imprisoned in English » et des analyses de la spécificité anglo-centrique de termes comme « right » et « wrong »,« reasonable »,« fair » ou encore des adverbes épistémiques du type « evidently » ou « probably ». Puisque nous sommes dans le Pacifique Sud, un exemple de cette aliénation ou emprisonnement par la langue pourrait être le traité de Waitangi, acte fondateur de la Nouvelle-Zélande et les controverses qu'il a suscitées, le mot « sovereignty » n'ayant pas d'équivalent strict en maori, ce qui fait qu'il n'est pas sûr que les maoris avaient compris ce qu'ils signaient. Mais d'un autre côté, Wiertzwicka soutient un programme de « natural semantic metalanguage », c'est-à-dire l'existence d'universaux linguistiques. Elle en dénombre une soixantaine, cela va de « I, you » et « person » à « good » et « bad » à « when »,« more », etc., qui permettent la traduction de tous les concepts d'une langue donnée dans un métalangage accessible à toutes les langues et à toutes les cultures. Les traductions ressemblent furieusement à ce que les colonialistes anglais appelaient autrefois le « petit nègre » et ont fait accuser Wiertzwicka de pratiquer, je cite, « une métaphysique de l'âge de la pierre », et de fait, on peut l'accuser de ne pas saisir la différence entre un mot et un concept. Mais dans ses limites, ce programme NSM a au moins l'avantage d'indiquer une voie et de produire indirectement une critique de notre texte de mai 68. L'émancipation en tant que contre-aliénation linguistique ne passe pas seulement par la langue poétique de l'avant-garde, mais doit se situer également dans la langue de tous les jours. Avant d'aborder ce point qui est essentiel, je produis cependant mon exemple d'émancipation linguistique par le biais de la littérature. Alex Tikau est un collègue américain, spécialiste de Max Jacob, qui est aussi poète, et incidemment, il fut naguère lecteur à Nanterre. Voici un texte tiré de son dernier recueil, Appetites. Airlines, overhead bins shall all carry on items, and gulf, or underlurk the sea affront of you. Calm down as the every device, release a vice by raise the metal flap. For floating you may use the cushion, your arms insert with straps until your heart against it lug, and when the craft would come apart, adjust yourself the mask upon before insisting other passengers. And follow urgent lights who come alive until the hatchway most nearby, unrolling where escape could slide undone into a desperate raft. Ce texte, qui réjouirait le cœur de vos étudiants si vous osiez le leur présenter, car il montre que dans leurs exercices de thème, ils sont poètes, n'est pas proposé comme un chef-d'œuvre poétique de la langue anglaise. Son intention satirique est aisément reconnaissable. Nous avons tous lu des modes d'emploi d'appareils ménagers japonais rédigés en anglais. Mais il a deux caractéristiques principales. Il est entièrement compréhensible. Le fait qu'il s'appuie sur les clichés d'une expérience fréquente des lecteurs aide naturellement. Et pourtant, il s'affranchit complètement des contraintes syntaxiques de la langue. Il produit donc au bénéfice du lecteur une émancipation linguistique en l'incitant contre la langue à laisser se déployer les potentialités de langue. Carry on, carry on, in front of, a front, etc. On peut décrire cela dans les termes de la théorie du sens de Gilles Deleuze dans Logique du sens. Les contraintes de la langue produisent du bon sens, de la bonne direction, du sens commun, c'est-à-dire communicable, au prix d'une aliénation du sens qui les précède logiquement et chronologiquement et qui est fait de toutes les virtualités sémantiques que les mots, leurs associations, leurs connotations et leurs sons rendent possibles. Ici, l'émancipation littéraire prend véritablement la forme d'une contre-aliénation, c'est-à-dire d'un parcours à rebours qui défait ce que les contraintes du langage ont construit. J'ai suggéré que cette forme d'émancipation langagière avait ses limites, celle de l'élitisme de l'avant-garde littéraire. Il faut tenter d'évoquer une possible contre-aliénation au sein même de la langue ordinaire. Mon troisième point s'intitule « Émancipation, première approche ». Soit l'énoncé suivant, qui se trouve sur votre handout, « He may go ». Hors contexte d'utilisation réelle, ce qui veut dire « dans les grammaires », cet énoncé est ambigu, car le modal peut prendre soit le sens de permission, soit celui de possibilité. Il est autorisé à partir, interprétation déontique, ou bien il se peut qu'il parte, interprétation épistémique. Et si l'on sort de la grammaire, la situation est à la fois plus complexe et plus intéressante. Pour cela, il nous faut un contexte d'utilisation réelle. Le film Mrs. Brown raconte les relations de la reine Victoria avec John Brown, le paysan écossais qui l'accompagnait lors de ses promenades à cheval dans son domaine de Balmoral et qui avait fini par devenir son ami. La scène se passe lors de la présentation du futur favori à la reine. Devant cette veuve récente et notoirement éplorée, il commet un impair. Il ose remarquer qu'elle a l'air triste. Cette remarque, qui enfreint scandaleusement les lois de l'étiquette, manifeste son bon fond et son naturel, mais elle n'est pas du goût de la reine, qui est, comme il se doit, « not amused ». Elle dit alors d'un ton acide « he may go ». L'analyse grammaticale de l'énoncé, qui dans ce contexte n'est pas ambigu, choisira l'interprétation déontique. La reine autorise John Brown à se retirer, ce qui littéralement suggère qu'il a le choix. L'analyse énonciative décrit le modal comme l'inscription d'une bifurcation, « he goes, he doesn't go », le choix étant laissé au sujet de l'énoncé. Une analyse pragmatique interprétera le modal comme l'expression de la levée d'un obstacle, quelque chose interdisait à John Brown de quitter la royale présence, mais cette interdiction est maintenant levée. Mais il y a un problème, c'est que dans ce contexte, l'énoncé ne veut pas du tout dire cela. Il n'exprime pas une permission, il intime un ordre et devra se gloser par « go now or you are dismissed ». Autrement dit, « débarrassez-moi de ce malotru ». L'analyse grammaticale tentera de récupérer l'énoncé à l'aide du concept d'acte de langage indirect, c'est-à-dire d'un acte dont le sens réel ne correspond pas à son sens manifeste. Selon cette interprétation, l'apparence de permission serait le vecteur d'un ordre atténué, une sorte de litote syntaxique. Je feins de vous donner la permission de quitter les lieux pour vous faire comprendre que je souhaite que vous disparaissiez. Mais le problème reste. La reine Victoria n'est pas en train de faire preuve de politesse vis-à-vis de John Brown. Elle exerce brutalement son autorité royale et l'ordre qu'elle donne à la cantonade n'est nullement atténué. Un indice le montre clairement. Elle parle de John Brown en sa présence à la troisième personne, ce qui est lui nier tout statut d'interlocuteur. On a donc une adresse doublement indirecte. Le pronom de troisième personne dénie au destinataire le statut d'interlocuteur et donc l'empêche de répondre. Le modal de permission rappelle que celui qui donne permission est en situation d'autorité vis-à-vis de celui qui en bénéficie. Et cet acte de langage indirect, par adresse indirecte, au lieu d'atténuer la force illocutoire de l'acte, on parle en anglais de « face saving », la multiplie. Il suffit pour s'en convaincre de comparer l'adresse directe par le biais d'un ordre, « go now », avec la phrase de la reine. L'ordre direct se contente d'exercer la fonction connative du langage, même si le fait de donner un ordre suppose toujours qu'on est en position de le donner, la phrase de la reine écrase le destinataire de toute la majesté du pouvoir royal. Voilà donc un énoncé, parfaitement grammatical et pragmatiquement efficace, qui s'émancipe des règles sémantiques et énonciatives que nos grammaires inscrivent. Il ne respecte certaines règles, ici celles de la syntaxe, que pour en exploiter d'autres à des fins expressives. Expression de l'affect royal et interlocutive, annihilation langagière de John Brown. Il pratique donc le même type d'émancipation que le poème d'Alex Dicard, mais il se situe résolument au sein du langage quotidien. On en tirera quelques conséquences. Première conséquence, la centralité de la pragmatique. Le sens d'une proposition n'est pas tant le résultat d'une composition de règles syntaxiques et sémantiques que de son insertion dans un jeu de langage, lui-même dépendant d'une forme de vie. Vous aurez reconnu ici le langage du second Wittgenstein. Le langage est ensemble de pratiques avant d'être sédimenté dans le système d'une langue. Ce qui veut dire qu'une langue n'est jamais simplement une langue, un système linguistique, mais une langue culture. Pour comprendre notre énoncé de départ, c'est-à-dire pour lui donner un sens non selon les règles de la grammaire, mais contre elles, il faut comprendre ce qu'était à l'époque victorienne la personne de la reine et l'étiquette qui l'entourait. Et plus largement, il faut comprendre que l'irénisme communicationnel est une abstraction sur la pratique réelle du langage qui est faite d'agonisme et de rapport de force. Ceci induit une seconde conséquence, car on doit se demander quelle est la nature et quel est le statut d'une règle de grammaire. Et la réponse ne passe plus par l'unité d'un système, mais par la sédimentation de régularité apparue dans la pratique du langage. Je rejoins ici le programme de recherche de Roy Harris, le linguiste oxonien scandaleux, qui soutenait précisément cette thèse, une règle grammaticale est le résultat d'un processus de grammatisation, concept que j'emprunte à Sylvain Auroux. Une règle de grammaire, c'est l'inscription d'une régularité dans une grammaire, ce qui lui donne valeur de norme, et donc une force qui s'impose au locuteur. C'est bien ainsi que fonctionne l'aliénation langagière, par sédimentation, inscription et création d'un rapport de force, au sein de ce que je ne tarderai pas à appeler un appareil idéologique d'État. On se souviendra ici du quatrième plateau de 1000 plateaux de Deleuze et Guattari, du mot d'ordre dans tous les sens du terme comme forme originelle de la proposition, et au tout début du chapitre, de la maîtresse d'école qui ne se contente pas d'enseigner les règles du système, mais, je cite, « les enseigne ». La troisième conséquence est que si l'aliénation est constitutive du langage en tant qu'il se grammatise sous forme de système d'une langue, elle n'est pas irrésistible et l'émancipation est toujours possible par retour à la pratique linguistique, c'est-à-dire en jouant la langue culture, ses jeux de langage et ses formes de vie, contre la langue système. Cela s'appelle un style. Il y a donc bien une dialectique de l'aliénation et de l'émancipation dans le langage sous la forme de la dialectique du système et du style. Car il y a une quatrième conséquence. Nous sommes confrontés à un paradoxe. Notre énoncé ne prend sens, comme on l'a vu, que contre les règles. Et paradoxalement, il a besoin, pour construire son sens contre elles, de ces règles qui l'enfreint. La pragmatique est centrale, mais elle a besoin de la syntaxe. On retrouve là une situation familière à ceux qui pratiquent la pragmatique selon H.P. Price et sa théorie de la conversation. Les maximes de la conversation sont faites pour être exploitées, c'est-à-dire délibérément enfreintes, afin de produire l'implicite spécifique de la conversation qu'il nomme implicature. Il y a une complicité profonde entre la norme et son infraction, et l'une ne se comprend pas sans l'autre. Ce qui veut dire que ce que j'ai nommé paradoxe est en réalité une contradiction dialectique, fondée non seulement sur l'unité des contraires, mais sur leur identité. Il n'y a de style que parce qu'il y a du système, de l'expression individuelle que parce qu'il y a de la langue sociale, et réciproquement. Ayant introduit mon troisième terme, la dialectique, je peux me livrer à mon opération de traduction culturelle, qui sera aussi, bien entendu, une trahison. Donc mon quatrième point s'intitule « Traduction-trahison ». Je repars des contraintes du système. Elles s'imposent à moi en tant que locuteur. Pour parler la langue, quitter mon statut étymologique d'enfant, « infant », celui qui ne parle pas, je dois m'adapter à un système extérieur et antérieur à moi, dans lequel sont sédimentées et grammatisées les pratiques langagières des générations précédentes. Contraintes assujettissantes et donc aliénantes. Car si je peux prendre la parole, c'est parce que c'est la langue qui parle, qui s'adresse à moi, me fixe une adresse langagière, d'où je pourrais parler à mon tour, fait de moi son porte-voix, c'est-à-dire porteur de ce rapport social qu'est une langue dite naturelle. Mais paradoxalement, ce système auquel je dois m'adapter, je me l'approprie. Je prends la parole dans tous les sens du terme. Je deviens sujet énonciateur en m'appropriant le système, en le faisant mien, en le pliant à mes besoins expressifs. Cela s'appelle un style individuel, j'écris dans mon style inimitable, ou collectif, style de groupe, d'école ou de période. Ce qui veut dire que, paradoxalement, ces contraintes assujettissantes de la langue sont également des contraintes capacitantes. C'est la traduction que je donne de « enabling constraints », terme emprunté à Judith Butler. Et mon paradoxe est en réalité une contradiction dialectique. Les contraintes du système sont capacitantes parce qu'elles sont assujettissantes et elles n'assujettissent pas sans libérer, sans produire un sujet d'énonciation, par appropriation du système à partir de l'infance initiale. Ce qui veut toutefois dire que le système, sédimentation des connaissances accumulées par les générations précédentes, est premier, pas d'expression individuelle sans système, sinon le risque est le délire et la salade de mots, le social est premier, l'individuel second, thèse marxiste fondamentale. C'est de ce point de vue qu'apparaissent les limites du couple aliénation-émancipation et la nécessité de la traduction culturelle. Pour aller vite, un des sites théoriques principaux de ce couple de concepts, sinon le site principal, c'est l'œuvre de Marx. Et cette œuvre a évolué. À la louche, j'insiste sur le « à la louche », le couple appartient plutôt au jeune Marx. Et il tend à être remplacé dans le Marx de la maturité, le Marx du capital, par le couple exploitation-révolution. Il m'apparaît que la raison de ce passage est le risque d'individualisme méthodologique du premier couple. Je vous rappelle, l'individualisme méthodologique soutient que l'individu est premier et la société n'est que la composition des décisions rationnelles prises par les individus. Le problème étant pour nous qu'en matière de langage, l'individualisme méthodologique ne fonctionne pas, pour les raisons que je viens de dire. Chez le jeune Marx, l'homme, concept hérité de Feuerbach et qui court le risque de l'abstraction spéculative, aliène le produit de son travail, c'est l'aliénation économique, et plus largement ses pouvoirs d'agir, au profit du souverain, de l'État, aliénation sociale, et doit s'émanciper par contre-aliénation pour récupérer ses pouvoirs dans le communisme réalisé, lequel, il faut s'en souvenir, est caractérisé par le dépérissement de l'État. Le second couple de concepts part non de l'homme individuel, mais du social, des rapports sociaux de classe, source d'exploitation et de la révolution nécessaire, accomplie par la classe des prolétaires pour passer au communisme. On pourra situer le tournant dans l'œuvre de Marx, dans la sixième thèse sur Feuerbach, que je cite « L'essence humaine n'est pas une abstraction inhérente à l'individu isolé, dans sa réalité, elle est l'ensemble des rapports sociaux. » Je propose d'opérer un passage similaire dans le domaine du langage par traduction culturelle. Je propose de passer de la dialectique de l'aliénation-émancipation à la dialectique de l'interpellation contre interpellation. Dans ces nouveaux termes, on dira que le locuteur, interpellé à sa place par les contraintes de la langue, est devenu par là ses contraintes assujettissantes étant aussi capacitantes sujet d'énonciation, contre-interpelle la langue dans son style individuel ou de groupe. Le concept de contre-interpellation m'appartient. Il n'est pas sans rapport avec le concept de resignification chez Judith Butler. Le concept d'interpellation est au cœur de la théorie de l'idéologie d'Althusser. Je rappelle celle des thèses althussériennes qui constituent sa théorie de l'idéologie qui nous concerne ici. Voici la thèse. L'idéologie interpelle les individus en sujet. Et il ajoute, elle interpelle tous les individus et elle ne rate jamais son coup. Cette thèse est illustrée par ce qu'il appelle un petit théâtre théorique, soit une sorte de scène primitive. L'agent de police siffle ou s'écrie « Et vous là-bas ?» et l'interpellé immanquablement se retourne, immédiatement conscient que c'est de lui qu'il s'agit, et, ajoute Althusser, par ce retournement à 180 degrés, il devient sujet. L'avantage de cette théorie de la subjectivation idéologique par interpellation est qu'elle part du social. C'est toujours un appareil qui interpelle, et l'agent est ici présent en tant que représentant de l'autorité. Le sujet individuel est en effet est un effet de bout de chaîne, et l'opération d'interpellation va des appareils idéologiques d'État aux rituels, des rituels aux pratiques et des pratiques aux sujets. J'ai proposé d'insérer entre les pratiques et les sujets une étape intermédiaire, celle des actes de langage, qui portent l'interpellation du sujet par leur force illocutoire. On devra faire à cette théorie une objection majeure. Les trois termes utilisés par Althusser, idéologie, interpellation et sujet, sont ambivalents, et la plupart du temps, Althusser privilégie l'interprétation pessimiste ou cynique. Ainsi, l'idéologie est illusion plutôt qu'allusion. Ici, je suis injuste avec Althusser, qui est tout à fait conscient de cette ambivalence que sa théorie a pour fonction d'expliquer. L'interpellation peut être policière, et le sujet ainsi interpellé, un sujet assujetti à l'autorité, le roi a des sujets, mais elle peut être aussi parlementaire, appel au dialogue, comme l'étymologie l'indique, et le sujet interpellé, un sujet philosophique, centre de conscience, de responsabilité et d'action, mais aussi bien, pour ce qui nous concerne, sujet d'énonciation. La scène primitive althusserienne est bien une interpellation policière, le sujet un sujet assujetti, recevant passivement, sans possibilité de résister, cette interpellation délétère. Dans sa critique de cette scène, Lucien Sèvres fait remarquer que le sujet ainsi interpellé n'est pas obligatoirement passif. Je cite « La réalité contemporaine montre maintes fois comment l'individu interpellé policièrement ne se borne pas à se retourner dans la passivité, mais à ses risques et périls, retourne activement l'interpellation au policier, lequel se voit alors, pourrait-on dire, en filant la conceptualisation althusserienne, interpellé en flic. » Fin de citation. C'est pourquoi j'ai proposé d'ajouter à la théorie althusserienne une seconde thèse sur l'interpellation. Pas d'interpellation qui ne suscite, au moins virtuellement, une contre-interpellation. Car le quidam interpellé par l'agent, même s'il ne le traite pas directement de sale flic pour ne pas aggraver son cas, n'en pense pas moins. Ma thèse est donc que le fonctionnement du langage, les pratiques langagères, peut être décrit à l'aide de la dialectique de l'interpellation et de la contre-interpellation. Mais comme ceci est bien abstrait, je vais vous proposer un exemple, une scène d'interpellation où la dialectique joue à plein. Mon cinquième point s'intitule Gandhi. En 1931, à Londres, Gandhi est à Londres pour participer à des discussions sur l'avenir de l'Inde. Un journaliste l'interview. Mr. Gandhi, what do you think of Western democracy? Réponse, I think it would be a good idea. Une analyse grammaticale me dit que la question du journaliste est une question ouverte qui est simple demande d'information. L'analyse pragmatique me suggère qu'il n'est pas de question innocente, car la question implique des présuppositions, non certes grammaticales, mais culturelles et politiques. Le journaliste place Gandhi, c'est-à-dire lui impose la position subjective qu'il doit accepter pour pouvoir répondre, grâce à deux présuppositions. La question porte sur un élément du monde dont l'existence est tenue pour acquise, et le temps présent du verbe, marque d'actualité, présuppose que cette existence est actualisée. Il y a bien dans le monde quelque chose que l'on peut nommer démocratie occidentale. En demandant à Gandhi de formuler une opinion sur cet élément du monde, opinion qui peut être positive ou négative, la question est effectivement ouverte, Le journaliste oblige Gandhi à accepter cette existence. Et Gandhi est piégé. S'il répond « Je pense que c'est une bonne chose », on l'accusera de se contredire puisqu'il mène un combat politique souvent en dehors de la légalité stricte contre la démocratie britannique. Et s'il répond qu'il est contre, on l'accusera d'être un barbare, pas encore pleinement civilisé. Dans les deux cas, Gandhi se voit interpellé comme indigène, sujet de l'Empire britannique, pas encore mûr pour l'indépendance. Mais Gandhi est malin. Il a flairé le piège. Il est même suffisamment malin pour ne pas refuser de répondre ou s'en prendre à la soi-disant neutralité des médias. Il ne sort donc pas du jeu coopératif, qui cache en réalité l'imposition d'un rapport de force, c'est-à-dire une interpellation. Il pratique ce que j'ai proposé d'appeler une contre-interpellation, en renvoyant ses présuppositions aux journalistes, comme on peut retourner une insulte à son envoyeur. Sa réponse, en effet, dénie implicitement les deux présuppositions. La démocratie occidentale est une idée, non un état de fait, et l'utilisation du conditionnel dans un valeur potentielle implique que cette idée n'est pas encore actualisée. Le journaliste voit interpeller en retour dans la position de qui soutient un régime hypocrite dont les proclamations « nous sommes une démocratie » ne correspondent pas aux actes, en l'occurrence l'oppression coloniale dont l'Inde est victime. Et à l'époque où Bush, Blair et Trump ont été ou sont les champions de la démocratie occidentale, ce genre de contre-interpellation n'a rien perdu de sa nécessité. Nous trouvons dans cette contre-interpellation la structure d'un mot d'esprit. La réponse de Gandhi utilise une bifurcation. D'un côté, la réponse attendue, dite saillante, positive ou négative, résultat de l'interpellation si celle-ci réussit. De l'autre, la réponse inattendue, c'est-à-dire le mot d'esprit, qui refuse l'interpellation et contre-interpelle l'auteur de la question, interpellé à son tour en tant que journaliste hypocrite, essayant de piéger le militant anticolonialiste. Et l'on remarquera que la contre-interpellation de Gandhi ne concerne pas seulement le journaliste et sa question, mais aussi la langue, en ce que celle-ci porte l'interpellation et contribue au piège par le biais de ses présuppositions. Et l'on comprend le sens de la célèbre formule provocatrice de Barthes, « La langue est fasciste ». Mais on ne s'en tiendra pas à la provocation de Barthes. La langue est fasciste en ce que son interpellation est aliénante et assujettissante, mais les contraintes qu'elle impose sont aussi des contraintes capacitantes, émancipatrices, en ce qu'elles autorisent et même suscitent la contre-interpellation, car la contre-interpellation de Gandhi, en ce qu'elle participe du jeu d'esprit, est une marque de style. Le locuteur, placé par la langue qui le parle, est aussi un annonciateur qui la plie à ses besoins expressifs, au besoin par le biais d'agrammaticalités, petites ou grandes. Sixième point, et linguistique dans tout cela. Prendre la langue par le biais de la dialectique de l'aliénation-émancipation, interpellation contre interpellation ou système-style, c'est proposer une philosophie du langage fort différente de la philosophie dominante. Et comme celle-ci sous-tend les conceptions habituelles de la discipline, et en particulier la vision qu'ont des études anglaises les autres disciplines, cela va avoir des conséquences directes sur ce que nous pouvons concevoir de linguistique. On aura donc deux philosophies du langage opposées. Appelons par simplification la première philosophie ministérielle des études anglaises. Vous vous souvenez de ce ministre de l'Éducation nationale qui soutenait que l'anglais était la seconde langue maternelle des Français. Il n'avait pas en vue la langue de Shakespeare, mais le globish, l'anglais simplifié et simpliste de la mondialisation. À la louche, elle repose sur les thèses suivantes. 1. Le langage est un instrument de communication. 2. L'apprentissage d'une langue est celui d'une langue standard. 3. Cette langue standard est définie par un système de règles grammaticales. 4. Ce système de règles est un système immanent et synchronique, ce qui veut dire qu'il est hors monde et hors histoire. Vous avez reconnu, ou à peu près, les postulats de la linguistique qui font l'objet de la critique du quatrième plateau de 1000 plateaux de Deleuze et Guattari. Cette philosophie sous-tend la position des autres disciplines vis-à-vis des études anglaises, du type « vous nous fournissez la langue, il faut bien que nos étudiants aient quelques connaissances de la langue de la mondialisation, nous fournissons les idées ». Je propose de construire l'anglistique sur une autre philosophie de langage, c'est-à-dire sur un autre ensemble de thèses. Thèse numéro 1. Le langage n'est pas un instrument, c'est un rapport social, c'est-à-dire un ensemble de pratiques. Thèse numéro 2. Une langue n'est pas, pas seulement, un dialecte standard, mais une formation linguistique, c'est-à-dire dans une conjoncture donnée, une langue est donc aussi définie par une conjoncture linguistique, un ensemble de dialectes, jargons, registres et styles, noués ensemble par des rapports de force, des relations d'hégémonie et de résistance. Ainsi, le dialecte standard a vocation hégémonique, mais cette hégémonie n'implique pas de domination totale. Non pas un système, mais un ensemble de variations. Thèse numéro 3. Le système d'une langue, dont on verra bientôt qu'il n'existe pas mais qu'il insiste, n'est pas, ou pas seulement, un ensemble de règles de grammaire, mais, contradictoirement, un ensemble de pratiques mortes, c'est-à-dire sédimentées et grammatisées, et de pratiques vivantes en processus, c'est-à-dire dans un état d'évolution incessante, à des rythmes différents. Ce qui veut dire que le système immanent et synchronique que la linguistique scientifique se donne pour objet n'est qu'une abstraction spéculative. Thèse numéro 4. Une règle de grammaire n'est pas une loi de nature ni une règle constitutive, mais la grammatisation de régularités au sein de pratiques langagières. C'est bien pourquoi les règles de la grammaire anglaise, même les plus sacrées, sont défaisables à des fins expressives. On en tirera deux conséquences pour l'anglais, objet de l'anglistique. Thèse numéro 5. L'objet de l'anglistique n'est pas une langue, au sens de la philosophie dominante, mais une langue-culture, car les pratiques qui le constituent sont et dans le monde et dans l'histoire. Thèse numéro 6. L'anglais n'existe pas, mais il insiste. Comme cette formule que je ne cesse de répéter est quelque peu sibylline, je m'en explique. Si l'anglais est une formation linguistique, lieu de rapport de force et d'hégémonie, nous avons un agon langagier entre l'anglais au singulier et les anglais au pluriel, entre la langue standard et les dialectes dominés, Deleuze et Guattari diraient le dialecte mineur, que l'on peut représenter sous la forme d'une corrélation. Vous trouvez la corrélation dans votre handout. Car les anglais, c'est la corrélation, c'est l'anglais, les anglais, unique, multiple, séparé dans le monde, réduit au tout, stable en variation continue, systématique, semi-chaotique, hors temps, changeant, abstrait, réel et enseignable, pratiqué. Car les Anglais sont bien la réalité de ce qu'on appelle la langue anglaise. Ce sont eux qui sont pratiqués dans le monde réel et non dans les grammaires. Mais ils sont aussi changeants et peu systématiques. Deleuze et Guattari parlent de système de variation, et donc difficilement enseignable. Ils sont bien multiples, du globish, l'anglais de la mondialisation, aux langues en séparation, car l'anglais d'Australie finira par se séparer de celui de la métropole, aux dialectes régionaux, par exemple le Wenglish, l'anglais parlé au Pays de Galles, aux dialectes et registres sociaux de génération, par exemple cet Estuary English parlé par les jeunes et qui avait contaminé jusqu'à la princesse Diana, aux registres et jargons professionnels, l'anglais des hommes de loi, aux argots, par exemple le rhyming slang, l'argot rimé des cockneys londoniens, et jusqu'aux styles collectifs et individuels. L'anglais standard est donc bien toujours minoré, et sa forme principale d'existence est son insistance, y compris dans la conscience linguistique des locuteurs des dialectes mineurs sur lesquels il exerce son hégémonie. Les dialectes mineurs sont donc et l'arrêté de la langue, ce qu'il y a au niveau des phénomènes, et sa vie, ce qui évolue. C'est bien pourquoi je propose de substituer au concept de langue celui de formation linguistique. Il en découle une dernière thèse, délibérément provocatrice, thèse numéro 7. Le cœur de l'anglistique n'est pas la grammaire, mais la stylistique. Bien, je crois que je vais arrêter là. J'avais, comme vous voyez dans le handout, un exemple d'analyse stylistique à partir de deux textes de Sam Selden, mais outre que vous pourrez trouver cette analyse dans l'ouvrage remarquable qui est en train de circuler. Vous la trouverez aussi dans un article de moi dans la revue en ligne Période, qui s'intitule Style et politique et qui est en accès libre. Vous tapez le cercle Période et vous trouvez une dizaine d'articles sous ma plume, dont celle-ci qui s'appelle Style et politique, dans laquelle vous trouverez une analyse constructive des deux textes de Selden qui sont dans votre agenda. Je vous remercie de votre longue patience et j'ai fini.